Et même si t'es Tony Parker, ça change rien, c'est business, quoi.
Bonjour à tous, bienvenue sur le premier épisode du podcast Bricks Talk, dans lequel on va parler d'immobilier, que je vais animer régulièrement parce qu'on va essayer de partir sur un rythme d'un podcast toutes les 2 semaines. Et la chance qu'on a, c'est d'accueillir sur ce premier épisode Tony Parker, qui va pouvoir nous parler d'immobilier. Merci Tony, en tout cas, de m'accueillir en plus chez toi
Ouais, bah
pour
merci,
ce
hein,
premier
Cédric. Hein.
épisode. On
Merci,
n'aura
merci.
pas forcément ce cadre-là à chaque fois.
C'est clair.
Et donc, ce qui va être super intéressant, c'est qu'on connaît Tony Parker sur sa carrière de joueur professionnel de basket. On le connaît aussi pour certaines de ses activités business, mais on ne connaît pas du tout sur l'immobilier. En tout cas,
En tout
personne
cas, j'en ai jamais parlé, en tout cas, c'est clair. On
Voilà.
m'a jamais posé la question.
Donc, bah, trop bien, tu vas avoir des milliers d'anecdotes à nous raconter.
Avec plaisir.
Est-ce que, avant qu'on rentre dans le vif du sujet qui est l'immobilier, tu peux te présenter en 5 minutes, nous dire, nous refaire un peu un parcours de ta carrière professionnelle rapidement et après tes activités business. Et ce qui va être intéressant, c'est de remettre un peu d'historique pour comprendre, toi, comment l'immobilier est arrivé dans tout ça par rapport aux opportunités qui t'ont été proposées.
OK. Bon bah je m'appelle Tony Parker, je suis né en Belgique. Mon père était basketteur professionnel. J'avais un père américain. Ma mère elle est hollandaise. Donc mon père quand il a quitté les États-Unis, il a rencontré ma mère aux Pays-Bas. Et après il a joué en Belgique. Donc c'est là où je suis né. On est resté que 4-5 mois et après on est arrivé en France. Et mes deux frères, ils sont nés en France, donc c'est pour ça qu'on a grandi en France. Mais les gens, ils ont tendance à oublier que je suis pas né en France, je suis né en Belgique. Donc je suis un peu un melting pot, un peu un petit cocktail explosif, parce que je suis né en Belgique, père américain, mère hollandaise, mais j'ai réussi à avoir le passeport français quand même. Donc j'ai mon passeport français, j'ai les deux, passeport français et américain. Et donc ma mère était mannequin à l'époque. Après, elle est devenue naturopathe. Et donc après, voilà, j'ai grandi entre le Nord et la Normandie, mais la plus grosse partie de mon enfance c'était en Normandie, et entre Fécamp, Dieppe et Rouen. Et après, j'ai commencé le basket, j'avais 3 ans, 3-4 ans. Je suivais mon père partout, je faisais comme lui, je voulais faire tous les mêmes moves. Et mon père, comme il était de Chicago, on était des grands fans des Chicago Bulls. Donc c'est pour ça que j'étais un grand fan et mon idole, Michael Jordan. Donc, je regardais tous ces matchs à 3 h du matin avec mes frères. On se levait tous les soirs pour regarder les matchs. Et voilà, j'ai adoré le basket. J'ai fait un peu de foot. J'ai fait du foot pendant 2 ans, 6 ans à 8 ans. Et après, à 9 ans, j'ai dit non, je vais jouer au basket. Et 92, je sais pas si tu te rappelles, il y avait la Dream Team Barcelone avec Jordan, Magic Johnson. Enfin, c'était la grande époque de la NBA où la NBA a explosé aux États-Unis. Mon père, à l'époque, il commentait les matchs des finales NBA sur France 2. Parce qu'à l'époque, la NBA, c'était sur France Télévisions. Il faisait ça avec Andy Garcia. C'était à l'époque, soit tu pouvais regarder mon père, ou soit tu regardais Georges Eddy sur le canal. C'était un peu la concurrence où le basket passait sur une télé claire. Et donc, moi, je regardais tout ça. Et voilà, j'ai commencé à progresser. Au début, c'était un rêve de jouer en NBA. Et après, à 14 ans, c'est devenu un objectif. Et j'ai intégré l'INSEP. Qui est l'endroit où tous les meilleurs joueurs de chaque sport, on va là-bas, sauf le foot, parce que le foot, c'est à Clairefontaine, et le rugby, c'est à Marcoussis, mais tous les autres sports,
C'est
on va
l'INSEP.
tous à l'INSEP, ouais. Judo, tennis, tu vois, les Gaël Monfils, Teddy Riner, Ladji Doucouré, enfin, on est tous allés à l'INSEP. On était tous en classe ensemble, et puis après, on faisait notre sport. Et donc, j'ai fait 2 ans à l'INSEP, et après, ça allait très très vite. Parce que là, j'ai progressé très vite. Et à 17 ans, je signe mon premier contrat professionnel au PSG. Et donc, je joue 2 ans là-bas. Et à 19 ans, j'intègre la NBA. Je suis drafté au premier tour par San Antonio Spurs. Donc là, je deviens le premier meneur européen à réussir en NBA. Après, j'étais le plus jeune meneur à être titulaire à 19 ans de l'histoire de la NBA. Et puis après, bah, j'ai gagné mon premier titre. J'avais 21 ans en 2003.
Ouais, super rapide.
Ouais, super rapide. En 2005, on gagne notre deuxième titre. En 2007, on gagne notre troisième titre. Donc 3 titres en 5 ans. Donc à 25 ans, je suis déjà 3 fois champion NBA. Et là, sur cette finale, je suis élu meilleur joueur des finales. Donc je deviens le premier européen à être MVP des finales. Et puis voilà, j'ai fait presque toute ma carrière à San Antonio. Et j'ai juste fait ma dernière année à Charlotte, où j'ai joué une année pour Michael Jordan. Michael Jordan, c'est le président, propriétaire du club. Et donc, j'avais envie de faire une dernière année pour changer.
Ok.
Enfin, j'avais signé un contrat de 2 ans à la base, mais ça se passait tellement bien, tu sais, dans mes business et tout ça, et que j'avais accompli tout ce que je voulais accomplir dans le monde du basket, que bah, j'ai appelé Jordan et j'ai dit, tu sais quoi, ma dernière année, je vais pas la faire. Je suis prêt à faire ma transition. Parce que mes parents, très, très tôt, ils m'ont toujours bien expliqué, c'est une carrière de basketteur, ça dure pas longtemps. Une carrière de sportif, en moyenne, c'est 5-10 ans. Bon, moi, j'ai eu la chance de jouer pendant 20 ans, mais ça, c'est très, très rare au niveau de la longévité. Mais très, très tôt, j'ai commencé à me préparer pour le business. En 2009, je fais mes premiers investissements.
Ouais, ça c'est déjà c'est ce que tu m'as dit assez rapidement, c'est que tu étais encore joueur pro, mais tu avais déjà un œil sur l'après.
Exactement.
Et tu préparais tout, notamment les dernières années, pour te dire bah, comment je vais faire pour bénéficier de
En
ma
fait,
notoriété,
très
pour
très
rebondir.
tôt, exactement, très très tôt dans ma carrière, j'étais allé voir Magic Johnson, qui est pour moi, tu sais, une référence au niveau de la reconversion. Il y a un businessman qui a vraiment réussi.
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait lui après?
Starbucks, il était dans Starbucks,
Ah
TGI
ouais?
Fridays. Il a aidé énormément dans les quartiers difficiles pour aider les, tu sais, les Blacks. Il a fait plein de quartiers. Enfin, tu sais, il a refait plein de trucs et il a réussi avec des fonds. Donc, il était très diversifié et il a réussi bah, dans l'immobilier, entre autres. Et donc, je demandais à Magic, voilà, c'est quoi le conseil que tu peux me donner? Et donc, il m'avait donné le conseil que je t'avais déjà dit, de faire ton réseau pendant que tu es en carrière, parce que pendant que tu es en carrière, tout le monde veut traîner avec toi, tout le monde veut dîner avec toi, parce qu'ils veulent voilà, parler de la NBA, savoir comment ça se passe, parce que la NBA, ça fait rêver. Et donc, c'est ce que j'ai fait. À chaque fois qu'on arrive en déplacement, au lieu de jouer aux jeux vidéo, et ben moi, je demandais un dîner avec le CEO de n'importe quelle société, tu sais, selon ce qui m'intéressait, ou aller visiter le campus de Google ou
Ah, trop
Apple.
cool.
J'ai fait tout ça. Et voilà. Et puis tu développes ton carnet d'adresses, tu développes ton réseau. Et selon voilà mes envies, ben, je savais que je pouvais m'orienter et avoir l'aide de gens qui ont l'habitude, parce que moi je crois beaucoup en ça. Il y a des gens, ils sont successful et il y a des raisons pourquoi ils sont successful. Pour moi, il n'y a pas de hasard, quoi. Les gens qui réussissent, c'est qu'il y a une raison. Et je pense que tu peux toujours t'aider et t'aider, enfin, te t'inspirer, on va dire, de ça. Et j'ai vraiment la chance d'avoir des grands chefs d'entreprise qui m'ont pris sous leur aile et qui m'ont aidé à me développer, parce que tu vois, moi j'ai quitté l'école, j'avais 17 ans, j'ai même pas le bac. Parce que bah, j'ai pas fini en fait, parce que quand t'es pro, bah, c'est tout le temps. J'étais déjà un des meilleurs joueurs direct à 17 ans, et donc j'avais plus le temps d'aller à l'école. Et après, il y avait le championnat d'Europe, et en fait, je suis jamais allé. Ils ont des séances de rattrapage pour les sportifs de haut niveau l'année d'après, et en fait, j'y suis jamais allé. En fait, j'ai commencé ma carrière de pro, donc j'ai dû vraiment apprendre le business sur le tas.
Cet état d'esprit ou cette humilité dont tu fais preuve, parce que en fait, ce qui est dur pour un sportif de haut niveau, tu vois, qui gagne très très bien sa vie, parce que tu es payé en millions, en millions de dollars à l'année, c'est d'avoir l'humilité suffisante de te dire ça va s'arrêter, je vais pas forcément être une rockstar toute ma vie, et il faut que je me remette en question pour apprendre des autres. Cette humilité que tu as eue dans le sport et que tu as eue aussi dans le business, tu penses que tu la tires d'où?
Bah, en fait, je me suis dit que quand je vais voir un businessman, je me mets pas dans la peau, genre je suis Tony Parker, je me mets dans la peau où j'ai tout à apprendre. Parce que lui, il est là et moi, je suis là. Donc, à un moment donné, moi, tout de suite, je ravale ma fierté et je me dis, il faut que je sois une éponge et que j'apprenne le plus possible. Je me suis toujours mis dans cette posture, parce que je pense que c'est important de pas prendre les gens de haut. Et c'est pas parce que tu as été bon dans un sport que forcément tu vas être bon dans le business. C'est deux choses très, très différentes. Et en plus, moi, je trouve qu'en sportif, en tant que sportif, on t'habitue mal, en fait. Parce que toutes les 2 semaines, tu touches un méga chèque, comme tu viens de dire. On travaille, allez, 2 heures par jour, 3 heures par jour. Alors que quand tu arrives dans la vraie vie, tu commences à 8 heures, tu finis à 20 heures, 21 heures, si tu es l'entrepreneur ou que tu es le chef, il faut pas que tu comptes tes heures. Et tu touches pas les mêmes sommes au début, parce qu'au début, souvent, t'investis, et tu cravaches, et tu travailles dur, et ça a rien à voir. Moi, je me rappelle souvent, il y a quelques sportifs qui disent, ah, Tony, t'es notre exemple, en reconversion, tout ça, et ils veulent passer des journées avec moi, c'est pour apprendre. Et donc, des fois, je les emmène et je sais pas, cette journée-là, j'ai trois conseils d'administration, tu t'enchaînes toute la journée, c'est long, tu sais, ça, il faut que tu sois présent, attentif, tout. Et à la fin de la journée, ils disent, oh non, mais moi, je peux pas faire ça, c'est trop long, c'est trop d'heures et tout. J'ai fait, ouais, mais tu peux pas avoir un gros salaire et travailler que 2 heures. Ça n'existe que dans le sport. J'ai fait, sinon, le reste, c'est la vraie vie, c'est non-stop. Et
Ouais, c'est
donc, moi,
clair.
j'ai fait cette transition, comme tu as dit, pour revenir sur ce que tu disais, à être humble, à me dire, OK, maintenant, ça sera pas les mêmes sommes que quand je jouais en NBA, mais si un jour, je veux créer quelque chose que je peux revendre un jour et qui pourra même plus que j'ai gagné dans le basket, bah ça va passer par travailler dur, cravacher de ça. Parce que moi, je suis convaincu, malgré tout ce que j'ai gagné dans le basket, que ce que je suis en train de faire et en train de développer, un jour, je pourrais le revendre et ça fera plus d'argent que tout ce que j'ai gagné dans le basket.
Mais ce que tu dis en plus, qui est assez vrai, c'est que quand tu es un joueur professionnel, tu es employé. Donc ton chèque équivaut à un salaire. Et ça, c'est
Ça.
très dur quand tu commences à investir dans l'immobilier ou même que tu crées des business parce que ton argent n'est pas lié à des salaires. Tu vois, c'est très dur de se verser un salaire. C'est plutôt lié à une capitalisation.
C'est ça.
En te
Créer de la
disant,
valeur.
je crée de la valeur et cette valeur, je pourrais la revendre plus tard dans 10 ans, dans 20 ans et toucher un gros chèque, mais il est vraiment déporté à la fin. Et au début, tu vois pas vraiment le résultat de tous
Non, et
les efforts
puis en
que tu mets.
plus, quand tu prends ta retraite, tu sais, les sportifs, ils sont habitués à un certain train de vie. Et donc, ils dépensent beaucoup de cash, en fait. Et c'est pour ça qu'il y avait la stat en NBA, au bout de 5 ans, 60% des joueurs, ils étaient broke. Tu sais, ils avaient plus d'argent.
Ah,
Parce
c'est
que c'est
triste.
dur de dire, comme tu viens de le dire, tu crées ta société, il faut que tu investisses, tu peux pas te verser de salaire. Donc, techniquement, il faut que tu fasses attention, que tu baisses un peu ton train de vie. Tu peux plus dire, allez, je prends l'avion privé dans tous les sens, bateau dans tous les sens. Ah, non. Là, il faut que tu réfléchisses différemment. Et c'est dur de revenir un peu en arrière. Généralement, tu sais, quand tu vis, non, j'aime pas dire ça, mais c'est dans la vraie vie, tu vois. Bah, petit à petit, tu sais, tu augmentes, t'augmentes, t'augmentes ton style de vie et il s'améliore de plus en plus, en fait. Et nous, en tant que sportifs, bah, on aimerait qu'on était là, tu vois, on a fait ça comme ça. Et on aimerait que ça continue. Mais le problème, c'est qu'on n'a plus les mêmes rentrées d'argent.
C'est ça, toi, c'est l'inverse. Tu
Ouais,
pars
c'est
d'ici
ça, exactement. Et il
tu
faut
vas
revenir un peu
descendre.
ici pour
Exactement.
après remonter. Et ça, je pense que les sportifs, ils ont du mal.
Et justement, tu parlais de l'INSEP. L'INSEP ou la NBA vous accompagnent justement à cette gestion de patrimoine
Non, pas
sur
vraiment.
de la
En
formation?
NBA, il y avait des réunions. Il y en a 4 par an où il y aura des thèmes différents. Donc, il y a thème immobilier, comment gérer ton argent. Après, il y aurait faire attention à la drogue, l'alcool, nanana, faire attention aux filles, blablabla, tout ce qui peut se passer. T'sais. Ils ont des thèmes justement pour t'éduquer et te préparer justement à cette vie de malade où du jour au lendemain, à 18 ans, 19 ans, tu gagnes des millions et des millions de dollars, quoi.
En plus, tu vois, je me dis, il doit même y avoir un syndrome qui te pousse, qui contre-intuitif, qui te pousse à pas investir, parce que tellement, comme les sportifs de haut niveau peuvent gagner beaucoup d'argent, bah forcément, il y a pas mal de personnes qui tournent autour d'eux, pas forcément très bien intentionnées. Et tu vois, c'est souvent qu'on entend tel et tel sportif s'est fait arnaquer. Et je pense que ça doit avoir même un effet un peu contraire en faisant peur à certaines personnes de se lancer
Bien sûr.
dans l'entrepreneuriat ou dans
Bien
des
sûr que ça fait
investissements.
peur. Bien sûr que ça fait peur. Et surtout quand tu connais rien, en fait. Moi, je partais toujours du principe que quand j'avais un rendez-vous avec mon financier, il me disait, Tony, toi, t'es trop fort parce que toi, à chaque fois, ça dure 4-5 heures, j'ai 50 000 questions. Tu sais, la plupart des sportifs, au bout de 30 minutes, 45 minutes, ils en ont déjà marre, en fait, de parler de business ou de parler d'argent. Et moi, je disais toujours, mais attends, c'est notre propre argent quand même. Il faut quand même essayer de comprendre quand même ce qui se passe. Et je dis pas que je suis un spécialiste de tout, mais au moins, j'arrive à comprendre un minimum pour après prendre des décisions par rapport à comment je veux vivre et ce que je veux faire avec ma vie. Et j'ai toujours été impressionné par les sportifs ou les financiers qui me disaient, au bout de 45 minutes, il y en a déjà marre, il veut se concentrer sur son sport et ça. Ce que je comprends, quand tu es jeune, tu veux te concentrer sur ton sport et être sûr que tu es le meilleur. Mais à un moment donné, faut quand même savoir, tu sais, ce qui se passe dans le business.
Tu fais quoi alors comme investissement quand tu immobilier quand tu es encore à la NBA?
Alors moi, quand je suis arrivé aux États-Unis, tu sais, la mentalité est très différente. C'est pas comme en France, où en France, premier truc que tout le monde t'apprend, c'est t'achètes un appartement.
Ouais, t'achètes ta résidence principale ou
T'achètes
t'achètes
ta
ton
résidence
appart.
principale, Et après, tu fais t'achètes un appartement. Ouais. Aux États-Unis, eux, c'est plus, on va mettre, tu sais, stock market ou
Ouais,
les
en
trucs comme
bourse.
ça. Ouais, en
Ouais.
bourse. Ouais, excuse-moi, je te fais du franglish,
Non,
excuse-moi. Falloir parler
y a
un
pas
peu
de
anglais, les
problème.
gars,
Y a pas de problème, je fais juste la traduction pour que tout le monde comprenne.
Mais voilà, au stock market, eux, ils sont plus, voilà, dans les trucs comme ça. Donc moi, j'ai commencé un peu comme ça, en fait.
OK.
J'ai pas fait trop d'immobilier au début. Et après, petit à petit, je me suis dit, bon, c'est bien le stock market, mais tu sais, il faut
Il y a de
laisser
la
l'argent,
volatilité, ouais,
voilà.
ça monte, ça
Et
descend, ouais. Sur du long
surtout
terme.
quand tu le mets, il faut le laisser sur le long terme, tu vois.
Exactement.
Et normalement, sur une période de 8-10 ans, ça se régularise et tu t'en sors bien. Moi, ce que j'aimais bien aussi avec l'immobilier, c'est que tous les mois, tu sais, t'as ton chèque qui tombe, quoi, comme un loyer, en fait. Et c'est vrai que moi, ce que j'ai préféré faire, c'était acheter des terrains où je signe des leases avec des grosses sociétés. Donc, celui-là que j'ai fait le plus, c'était FedEx. Donc, FedEx, ils achetaient, tu sais,
Des listes,
des bons,
des beaux commerciaux.
des bons. Et donc, après, tu sais, t'avais des garanties pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans, selon ce que tu voulais
Ouais, c'est ça.
négocier avec eux. Et à chaque fois, il y avait des petits bumps. Donc, tu faisais à 6% cap, tu vois. Donc, moi, je voulais 6% minimum
Ouais.
de retour. Et après, tu avais des petits bumps, des raises sur le loyer. Et ça, c'était, mais franchement, tellement facile, t'as rien à faire. C'était on clock à chaque fois. Et FedEx, ça va nulle part. Ils grandissent tous les jours. Et voilà. Et moi, c'est comme ça que j'ai commencé mon immobilier.
Bah, tu vois, c'est ce qu'on appelle de la messagerie, donc des entrepôts d'activité dédiés à des expressistes, donc notamment FedEx, qui d'ailleurs a eu vraiment le vent en poupe, hein, tous ces investissements-là pendant la période Covid, parce que tout
Ah
le monde s'est
bah
rendu compte que le e-commerce allait se développer
ouais. Exactement.
et que ces sociétés allaient exploser. Donc d'ailleurs, les rentabilités sur lesquelles tu investis ont commencé à diminuer. Toi, tu parles de 6%, maintenant ça n'existe plus d'acheter de la messagerie à
Ah, je sais.
6%, tu vois.
Ah, je sais.
C'est plutôt 4%, là, les taux de rentabilité qu'on va t'annoncer. Moi, ce qui me surprend, c'est que pour un particulier, parce qu'en fait, tu connais rien à l'immobilier à ce moment-là,
Ah non, je connais rien. Ça, c'est sûr.
pour un particulier, tu vois, c'est vraiment la dernière étape quand tu as tout fait avant. Tu as déjà fait de l'investissement résidence, tu as acheté ta résidence principale, tu as déjà fait de l'investissement résidentiel dans des
Bah, j'ai fait ma
appartements.
résidence principale en parallèle quand même. Donc,
Tu
j'ai fait ma
nous
résidence
entends là,
principale et
mais
j'en
c'est vrai que
parle.
là, comme personne ne connaît de prime abord, qui est-ce qui te met sur le deal comme ça?
Et ben, je me renseigne, j'ai dit voilà ce que j'aimerais faire. Et donc, après, je demande à mon agent et à mon business manager s'ils connaissent des gens qui sont dans ce milieu-là.
Trop bien.
Pourquoi j'ai voulu faire ça? C'est parce que j'avais différentes propositions. Tu pouvais investir dans des fonds
Ouais.
et des fonds qui sont spécialisés dans l'immobilier. Et ils achètent différents buildings avec des appartements. Le truc, pourquoi je voulais pas faire ça au début, c'est parce que j'ai aucun contrôle. Et je me suis dit, si un jour j'ai besoin de l'argent, bah je peux pas vendre
Non.
parce qu'il y a trop de monde et c'est le président du fonds qui décide quand on vend, en fait. Moi, ce que j'aimais bien avec les FedEx, c'est j'étais propriétaire du truc et je pouvais vendre quand je veux, en fait. Donc je touchais mes chèques, je touchais mes loyers et si je voulais faire autre chose, bah je vends le truc ou si j'ai une belle offre, je décide de vendre. Et donc j'en avais une quinzaine. J'en avais une
La
quinzaine.
banque
Donc,
est accompagnée là
ah
sur les
ouais,
acquisitions?
banque, ouais. Il
Ouais.
fallait que je mette 30% down.
Donc 30% d'apport
Ouais,
et
d'apport, 30%. Et après, le reste, c'était financé.
trop bien.
Et franchement, c'était un bon deal. C'était un bon deal pour moi
Là-bas,
parce
t'es sur du
que,
taux variable quand t'empruntes?
non, moi,
Non.
j'essaie toujours de négocier un taux fixe.
Ok. Et t'es arrivé à choper du taux fixe, elle est trop bien.
Ah, les taux variables, c'est chiant, ça.
Ouais,
Ah.
bah ouais,
Mais
tu peux
après,
pas
je sais que
exploser,
des
hein.
fois, tu peux pas. Mais
Ouais.
moi, j'avais tellement de trucs avec ma banque, je faisais toujours un taux fixe.
Ok.
Et tous les 2, 3 ans, j'allais les revoir pour dire, tu sais, essayer de négocier.
T'es en quelle année là quand tu commences à faire
là,
ça?
quand je commence, alors attends, je suis arrivé en 2001, 2005, c'est fin mon rookie contract, je devais être en 2007, c'est quand je signe mon premier gros contrat.
Ok.
Donc, quand je suis arrivé en NBA, j'avais mon contrat rookie, donc c'est 4 ans, de 2001 à 2005. Et en 2005, je signe mon premier gros contrat. Donc, je signe 6 ans, 66 millions. Et là, je me dis, bon, faut pas faire n'importe quoi, faut calculer les taxes, calculer tous les trucs, voir ce qui me reste. Et là, je décide de commencer ma résidence principale. Donc, la maison
À San
que tu
Antonio, ouais.
connais, à San Antonio, ouais. Parce que quand je suis arrivé, j'avais loué la première année. Parce que je savais pas trop, tu sais, je voulais voir San Antonio, voir où je voudrais vivre. Fin de ma première année, j'achète ma première maison. Et donc là, je l'achète. Et après, en 2004-2005, J'ai acheté le terrain et là, j'ai commencé les plans. Parce que ça a duré 2 ans, un an et demi pour faire les plans. Un an et demi. Et après 3 ans pour construire.
OK.
Et donc, j'ai fait ça pour ma résidence principale. Et en parallèle, je commençais à faire les FedEx pour garder un peu de contrôle. Quand j'en avais une quinzaine, après, je me suis dit, bon, je vais faire un peu autre chose. Et là, je me suis dit, je veux aller à New York. Parce que je me suis dit, New York, ça peut pas grossir, en fait. C'est
Non.
une île et ça peut pas grossir. Et en 2008, il y a le crash aux États-Unis de l'immobilier. Et il y avait plein d'opportunités, tu sais, à New York où il y a des gens, ils étaient vraiment dans les problèmes, quoi. Et donc, moi, j'ai demandé à mon agent, est-ce que tu connais quelqu'un qui est costaud dans l'immobilier, avec qui je pourrais m'associer à New York, qui achète des buildings et tout ça? Et donc là, je me suis associé avec une personne qui s'appelle Maire Orbach. Bon, maintenant, c'est Orbach Group. Donc, si tu tapes sur Internet, ils sont costauds. Il a 25% des Minnesota Timberwolves. Il est même propriétaire d'un club NBA. Et donc, je me suis associé avec lui. C'est devenu un de mes meilleurs amis. Et je fais tout mon immobilier avec lui à New York. Et
Okay.
New York, ça va nulle part. Ça prend de la valeur
Ouais.
tout le temps. Tout le temps, tout le temps. Parce que tu ne peux pas construire. Et tellement tu peux pas construire, maintenant, ils réfléchissent à... Au-dessus des buildings, t'achètes... comment ils disent ça en anglais? Ils
Des
achètent...
droits à construire.
Ouais, tu sais, mais ils t'achètent le ciel, entre
Ils
guillemets. Je
t'achètent
sais
le
même
ciel.
pas...
Ouais, c'est ça. C'est des droits à construire
Des droits à construire plus tard, quand
plus
ils
tard.
auront... Et après, tu peux augmenter comme ça maintenant. Maintenant, t'achètes
Ouais,
des trucs qui n'existent même pas,
c'est
quoi.
ouf.
Ouais, non, mais
C'est
c'est
pour
incroyable à New
prochain.
York. Mais ça, c'est unique au monde, l'immobilier à New
Oui.
York. C'est super dur de rentrer.
Comment
Il faut que tu aies
tu...
des super bonnes connexions. Et c'est là où ça aide de s'appeler Tony Parker et tout ça, quoi.
C'est ce que j'allais te poser comme question. C'est quoi l'intérêt d'un mec comme Orbach là, de s'associer avec toi à ce moment-là? Tu n'as aucune connaissance de l'immobilier. C'est lui qui va faire le business. Qu'est-ce que tu lui apportes concrètement? Parce que j'imagine que si c'est lui apporter quelques millions ou dizaines de millions, il peut les trouver différemment avec la banque. Quoique...
Pure amitié. Pure amitié. Et il avait commencé un fonds. Il y avait 3, 4 personnes avec lui, qui étaient ses amis. Et voilà, on a bien matché, en fait. Mais pour répondre à ta question, il n'était pas obligé, non, c'est clair. C'est clair. Là, c'est purement où tu te dis, tu sais, il y a les parts du gâteau, là, où tous les gros deals, c'est que pour les grosses sociétés. Et toi, tu essaies juste d'avoir une petite part. Parce que les meilleurs deals, bah, ils sont, tu sais, c'est pour les gens qui j'ai envie de dire, qui contrôle un peu le monde, on va dire, entre guillemets. Et moi, j'essaie juste d'avoir une petite part de ça, en fait. Et donc, ça a bien matché. Tu sais,
L'impression que c'est ta...
tu as le droit d'avoir un meeting, et après, il faut être bon au
Ouais.
meeting, quoi.
Non, mais j'ai l'impression que c'est ta force, c'est de te dire, je sais pas tout faire, je vais pas faire tout seul, je vais essayer de m'associer, et dans toutes tes activités, tu vois, que tu as en parallèle, à chaque fois, de l'extérieur, je me dis, mais c'est quoi son intérêt à s'associer avec Tony Parker, qui n'y connaît rien dans le business du vin, dans le business du foot, dans le business, dans plein de business. Et finalement, tu arrives avec cette humilité où les gens, ils ont envie de te prendre sous leur aile et te dire, bon, allez, viens, on va tenter un truc ensemble. Donc, c'est cool, félicitations en tout cas.
Ouais. Bah, après, je pense que le seul truc où je peux l'aider, c'est d'avoir les bons, de, tu sais, d'avoir certaines, tu sais, quand t'es,
Des connexions.
ouais, les connexions, parce que quand t'es entre certaines familles, tu sais, à New York, et bah, peut-être ils auront plus envie de vendre à Tony Parker et mon associé que cette personne-là. Parce qu'après, quand tout le monde, quand, pas tout le monde, mais quand t'as 2, 3 personnes qui sont sur le building, on a tous les moyens.
C'est
Et
ça.
bah, en fait, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est le dîner que tu vas faire avec celui-là qui veut vendre et qui,
Bah,
il sait au feeling, en fait.
tu rajoutes une dose d'entertainment.
C'est ça.
C'est OK, il y a de la bonne humeur. On n'est pas juste là pour parler de finances et d'une acquisition
C'est ça.
et de chiffres.
Parce que franchement, les buildings à New York, tu sais, chaque propriétaire, tu dois avoir 3, 4 offres tout le temps. Et en fait, c'est toi à qui tu veux vendre, en fait. Et moi, c'était un peu, en toute proportion gardée, quand je vends une maison, par exemple, tu vois, c'est parce que celle où on est là, je vais la vendre, celle-là, bah, j'avais 3, 4 offres, c'était les mêmes prix, donc c'est pas une question d'argent.
Ouais.
Donc, qu'est-ce qui va te faire décider? Bah, moi, c'était la famille, ils avaient des enfants, ils étaient trop gentils, tu vois, alors que j'avais les mêmes offres des autres personnes, mais j'aimais trop cette famille-là.
Ok, cool.
Bah, ça, c'est mon rôle quand je suis avec lui, d'essayer d'être sûr qu'il vend à nous.
Tu vas faire une partie de basket avec le
Ouais,
pote,
exactement,
avec
ouais,
le vendeur.
je
Qu'est-ce que tu as fait de tes FedEx? Tu les as gardés? Tu les as revendus?
Non, je les ai revendus. Je les ai revendus parce que je voulais faire autre chose. Donc, j'aurais pu les garder, mais c'est vrai que quand il y a eu le Covid, eh ben, je sais pas, j'ai décidé de les vendre parce que, je sais pas, je les avais depuis longtemps et j'ai décidé de vendre.
Et là, quand tu réinvestis à New York, on est en pleine crise des subprimes. Il n'y a plus aucune banque, j'imagine, qui te suit. Donc là, tu vas sur ton cash perso. Ouais.
Prends des risques.
Ouais,
Prends
c'est
des
clair.
risques. Je suis un joueur de poker. All in. Mais oui, là, tu prends ton cash. Ouais. Là, tu prends ton cash. On dit souvent que cash is
Cash
king,
is king, ouais.
qu'il faut toujours avoir du cash, tu sais, pour avoir des deals comme ça. Donc, moi, je garde toujours pas mal de cash, tu vois, juste au cas où, que je place à 1, 2% et que je peux prendre assez rapidement pour quand il y a des deals comme ça.
Ouais, mais tu vois, on parlait beaucoup de New York et de Miami. Miami, on disait que les penthouses valaient plus rien. Penthouse à 2 millions, tu vois, ça valait 200 000 dollars. Mais
Bah, tu vois, moi, j'ai jamais investi à Miami.
t'es
J'ai
jamais.
jamais investi à Miami parce que Miami, tu peux construire de partout. Et puis, j'ai peur aussi. Un
Pas
jour, il peut se
sur,
prendre
pas
une
sur,
tempête.
ouais, pas sur l'île
Ouais,
en
ben,
banlieue.
tu parles de Star Island, là.
Ouais.
Je sais pas, moi, j'ai toujours préféré New York pour l'immobilier.
Ouais.
Alors après, tu peux prendre les second markets. Colorado, tu sais, des villes qui commencent à monter.
Qui booste bien en plus.
Ouais. Et là, je me suis associé avec une autre personne. Avec un autre fonds qui se focalise que sur second market.
Ok.
Et donc là, on investit un peu en Colorado, un peu,
Ouais, Texas aussi, t'as
ouais.
pas mal de villes qui.
Et là, c'est des appartements, c'est qu'on remet bien. Et là, on a des très, très bons chiffres. On peut arriver jusqu'à 8-9% là
Ok.
d'intérêt.
De rentable.
Ouais.
Cool. Parle-nous de ta maison à San Antonio, parce que justement,
Bon,
là, il n'y avait pas de rationnel
non,
économique.
il n'y avait pas de raison, il n'y a pas de logique. Il n'y avait pas de logique. En fait, moi, je partais du principe que je travaille dur. Moi, je suis parti de rien du tout. Bah, comme toi, tu sais, je suis parti de rien du tout. Et quand tu réussis et que je suis avec mes financiers, c'est toujours qu'est-ce qu'on peut faire pour fructifier, fructifier, fructifier. Et là, j'ai dit, moi, pour la maison, j'ai dit, les gars, j'ai fait, moi, franchement, j'ai envie de me faire plaisir. Ça sera pas rationnel, je le sais. Je pourrais pas revendre ma maison au prix que je pourrais même pas faire de plus-value. Et je risque sûrement de perdre de l'argent. Mais j'ai dit à un moment donné, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie que, tu sais, c'est ma base. J'ai jamais eu vraiment ça, moi, avec ma famille. Tu sais, avec mon père, mes parents, tu sais, ils ont divorcé tôt. J'avais 5 ans. On déménageait tout le temps. On changeait tout le temps, tu sais, de ville. Et j'ai jamais eu vraiment une base où je pouvais me retrouver, tu sais, avec toute ma famille et fêter Noël. Et parce que Noël, c'est mes vacances préférées. J'adore Noël. Bah, je sais pas, j'avais envie de faire un méga truc. Et donc, c'est clair que je me suis fait plaisir. C'est pas rationnel, mais tous les jours, je suis trop content d'y aller. Et j'ai créé des souvenirs inoubliables. Mes deux enfants sont nés là-bas. Et voilà, maintenant, je suis en France et tous les jours, mon financier m'appelle, dit, il faut la vendre, faut la vendre. Ça sert à rien de garder une maison que tu sais qu'un mois et demi dedans.
Ouais.
Et non, j'y arrive pas. Je lui dis, c'est pas grave, je continuerai à travailler dur et pour le afford. Et puis voilà, quoi.
Ok. Je pense que ça nous amène finalement aussi à l'objectif, la raison pour laquelle tu fais les choses. Tu vois, dans l'immobilier, c'est toujours faut pas se perdre dans l'immobilier, en fait. L'immobilier doit être un moyen d'accéder à des moments de vie ou à des plaisirs ou. Et tu vois, ça l'évoque bien, tu vois. Toi, tu t'es donné les moyens, bah, d'avoir une base, comme tu l'appelles, ta maison, dans laquelle tu retournes régulièrement et tu passes des super moments. Mais justement, tu vois, si on tire un peu la pelote, qu'est-ce qui fait que tu as encore envie, tu vois, de monter des business, d'investir dans l'immobilier? Qu'est-ce qui te motive là au quotidien?
Bon, je pense que j'aime ça. Je pense que j'aime ça. Je pense que j'aime l'adrénaline. Je pense que j'aime bien le challenge. Et j'ai l'impression que je suis un peu un bâtisseur, quoi. Quand je fais le projet de l'académie, c'est, je suis animé par la transmission. J'ai envie de redonner à la nouvelle génération. J'ai envie de créer des opportunités pour les jeunes. Et donc, je décide de construire l'académie, d'acheter le terrain et de vraiment créer un projet qui peut avoir un impact sur notre société. Je pense que je suis animé par ça. Parce que c'est clair que je pourrais rester chez moi, rien faire, vivre sur mes intérêts et rien faire. Mais je me vois pas rien faire, en fait. je me dis que ça, je pourrais faire ça quand j'ai 60 ans, quoi. Mais pas là maintenant. J'ai l'impression que j'ai marqué l'histoire de mon sport, les 20 premières années de ma vie active, et j'ai envie que les 20 prochaines années, eh ben, j'ai un impact sur notre nouvelle génération, sur les jeunes et notre société. Puis après, à 60 ans, j'aurai tout le temps de rien faire, aller voir les petits-enfants et de ça, de chill, exactement.
Donc l'académie, c'est une académie de basket et pas que maintenant.
Ouais, moi, en fait, je considère mon académie comme une école de la passion. Okay. C'est une école de la passion, t'es passionné. Et bah viens à l'académie, l'emploi du temps sera customisé, tu pourras tout faire. Et donc nous on a basket, on a e-sport, on a musique, on a tennis, on a les échecs. Ça c'est les passions qu'il y a à mon académie. On a les échecs parce que j'adore les échecs. Je jouais beaucoup aux échecs avec ma mère.
La dernière fois j'y réfléchissais à ton académie parce que tu m'avais parlé du e-sport et des échecs. Je me suis demandé pourquoi tu il y avait pas du poker justement.
Non, pas de poker. Bah ça n'existe pas, je crois, une école de poker, je crois.
Mais justement, ouais. Tu vois, ça serait stylé. Parce que
les échecs, tu vois, ça existe et ça a besoin de se développer.
Ouais.
Et il y a de la demande. Et puis, avec une école en Corse, on est les seules écoles en France qui imposent les jeux d'échecs dans le cursus de nos gamins.
Très bien.
Parce que, tu vois, j'aime bien, moi, il faut penser 2-3 coups en avance. Ouais. Tu sais, ça demande à vraiment utiliser ton cerveau, les échecs. Et je trouve que c'est stimulant après, tu sais, pour le reste. Mais poker, ouais, pourquoi pas, hein. Tu me donnes une idée, Cédric, pourquoi pas.
Tu dis, c'est comme le e-sport, ouais. Tu vois, il y a quand même des prize pools qui sont importantes.
Ouais, bien sûr.
T'as une vraie discipline.
Ah, bah, tu peux vraiment vivre de ça maintenant, ouais, ça, c'est sûr.
T'as une vraie discipline, il faut vraiment être capable d'analyser ton adversaire. Tu te bats pas contre la banque, là.
Ah, ouais, non, c'est sûr. Ça, c'est sûr.
Moi, il y a un move qui m'a surpris, et a posteriori, je pense que tout le monde se dit que c'était un move du siècle que tu as fait, c'est quand tu as racheté la station Villard de Lens. Ça sortait de nulle part.
C'est clair.
Ce que tu as su faire, c'est impliquer la communauté locale pour fédérer cet écosystème qui était déjà en place. Et tu vois, la municipalité, les acteurs qui s'occupaient déjà de la station. Et faire en sorte de faire vivre cette ville qui était peu connue, parce qu'on est sur de la moyenne montagne, je crois que ça culmine à 2000 mètres d'altitude.
C'est ça, 2000-2002.
Ouais. Et finalement, alors je ne sais pas où tu en es sur ton projet immobilier à Villard-de-Lans.
Tout avance bien. C'est marrant comment c'est commencé pour la petite histoire, c'est vrai que j'étais à San Antonio et tu as ma présidente déléguée de mon club féminin qui m'appelle Tipsy et tout. Tony, il faut qu'on aille à Villard-de-Lans et tout ça. Je fais quoi? Je fais Villard-de-Lans. Je fais, mais c'est où ça? De quoi tu me parles et tout? Fais, c'est une station de ski et tout, mais tu vas voir, c'est trop bien. C'est un deal immobilier et tout ça. Nanana. J'ai fait, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu rappelles-moi demain. De toute façon, t'es trop tipsy là. Et elle me rappelle le lendemain.
Ah, elle était tipsy. Elle était
parce que c'était après une victoire et tout. Okay. Et un de nos partenaires, un de nos sponsors, Federali, qui est promoteur, il parle de ce deal là, en fait, qu'il y a les deux frères, ils vendent la station, ils ont 96 et 94 ans, ils vendent la station, et comme Tony, il investit beaucoup dans la région, c'est la première station de Lyon, c'est à 1h30, peut-être il va aimer. Moi, j'avais jamais skié de ma vie, j'adorais regarder, mais j'ai pas le droit dans mes contrats, en fait, j'ai pas le droit de skier dans mes contrats. Mais j'ai toujours aimé, tu sais, aller à Aspen, j'étais déjà allé à Aspen, donc je skiais pas, tu vois, je regardais mes amis, mais moi, je skiais pas, mais j'aimais bien, tu sais, l'ambiance, le monde et tout ça. Raclette, fondue, vin chaud, j'aimais tout ça. Et donc là, je dis à MS, j'ai fait, bon, tu sais quoi, comme moi, je suis quelqu'un de curieux et je dis jamais non comme ça, je dis, on va regarder, on sait jamais. Donc on prend l'hélico, on y va. Et là, on arrive, tu sais, vers la station avec l'hélico et puis je fais, c'est pas mal quand même, c'est mignon, hein, c'est quoi, alors Villard-de-Lans et tout, oui, c'est deux stations, Corançon, tout ça, on m'explique. Et là, on arrive, et là, je monte tout en haut en haut des 2002, là, et t'as un restaurant qui s'appelle Altitude 2000, et là, t'as la vue sur la station. Et là, un vrai coup de cœur, quoi. Je me dis, oh, waouh, c'est sympa quand même, hein. Je fais, c'est vraiment cool et tout. Et donc là, après, je fais, bon, on va regarder quand même un peu le business quand même pour regarder les chiffres. Et donc là, on regarde les chiffres, on voit qu'il y a pas mal de terrains, tu sais, qui sont libres, mais qu'il faudra demander des permis de construire et tout ça, tu vois. Et moi, je me dis, mais attends, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Je peux aller voir, c'est la mairie, et discuter. Et donc, bah, 4 ans après, tout se passe bien. J'ai racheté la station aux deux frères. On a eu ce qu'on voulait, tu sais, par rapport avec les politiques, et maintenant on va faire un endroit fabuleux, quoi.
Ouais. C'est trop cool parce que bah, c'est une belle histoire, tu vois,
Ouais.
et surtout ça permet de développer une station qui se serait sûrement pas développée, ou voire qui aurait fermé, tu vois,
Ah, moi
mais
je
qui
pense qu'elle aurait
maintenant.
fermé
Ouais.
parce qu'il n'y avait plus d'investissement depuis les années 80,
C'est
c'était
ça.
vieillement vieillissant.
Et tu vois, tu as toutes les grosses stations là, des Alpes qui se développent de plus
Ouais.
en plus
Chaque
avec
année, il y a des
leur.
upgrades,
Ouais, exactement.
bien sûr.
Quand tu vois le prix au mètre carré là,
Ah, grave.
qui explose. Ouais. Je crois que tu es à plus de 20 000 euros là maintenant du prix au mètre carré
Bah là, tu
dans
sais que le jour où
certaines.
j'ai acheté la station, tous les appartements, ils ont pris de la valeur et
C'est
tout. Ils
vrai.
étaient trop contents, tous les gens, parce que
Ouais,
l'immobilier avait augmenté parce qu'ils savaient que j'allais faire quelque chose et que donc ça va prendre de la valeur et tout ça.
carrément. Mais tu t'es pas dit à un moment donné, quand on t'a proposé le truc, je suis en train de me défocus, je fais trop de choses ou.
Non, non, parce que ça reste de l'immobilier.
Ouais.
Et moi, l'immobilier, c'est ce que je fais. J'adore. Donc, OK, il y a le ski. Pour moi, la station de ski, les remontées mécaniques, parce que c'est la plupart des gens, je me rappelle quand j'ai acheté la station, mais t'as acheté quoi techniquement? T'as quoi quand t'as une station de ski? C'est mes amis qui ne connaissaient pas trop. Et je fais, non, mais c'est les terrains aussi. Il pensait que j'avais juste acheté les remontées
C'était en
mécaniques, quoi. Il
mode.
fait, mais Tony, il part en vrille, en
Bah, tu. Mais
fait.
non, c'est pas con, hein. Tu vois, tu pourrais juste avoir la concession et une société
Bien
d'exploitation
sûr, ouais. Bien
sans
sûr.
avoir les terrains. Et bon, bah là, tu peux pas avoir justement ces développements en tête.
Bien sûr. Non, mais c'est clair que moi, ce qui m'intéressait, c'était les terrains, bien sûr,
Ouais,
pour
exactement.
développer. C'est là où tu vas faire ton truc, c'est sûr. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Tu vois, moi, ça fait 4 ans maintenant que tous mes hivers et nouvel an, je suis là-bas. C'est mes 2 semaines où je vais skier parce que depuis ma retraite, bah, maintenant, je skie. Et mes enfants, ils adorent skier parce que moi, mes parents, c'était trop cher le ski. Mes parents, ils n'ont jamais eu les moyens d'aller au ski. Donc là, de pouvoir offrir ça à mes enfants et de voir comment ils adorent le ski. Tu vois, là, quand ils sont rentrés à la maison pour les vacances, papa, on part quand au chalet et tout, ils ont trop hâte. Et bah, je suis trop content d'avoir fait ce deal-là. Trop content. Et jamais j'aurais pu imaginer que j'investirais dans une station de ski.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment des deals, des investissements de passion, en fait.
Ouais.
C'est la passion qui te drive,
Bah, c'est un peu comme ça que je gère mon groupe. Moi,
ouais.
je suis focus sur mes passions. J'ai pas l'impression de travailler. Je compte pas mes heures. Et je me focus sur trois trucs, trois pôles sur mon groupe Infinity Nine Group. C'est sport. Et donc là, tu retrouves basket, basket féminin, les chevaux, la station de ski. Éducation. Donc là, tu retrouves l'académie Lyon, l'académie à Saint-Ouen qui va ouvrir. Et art de vivre. Et là, tu retrouves le vin, le champagne, Smart Good Things, c'est la boisson de bien-être. Là, on vient d'être coté en bourse en septembre. Si je me concentre sur ces trucs-là. J'ai vraiment pas l'impression de travailler quand je fais ça, parce que c'est que des trucs où je suis passionné. Et quand les gens, des fois, ils ont tendance à, et je peux comprendre, hein, à dire, mais attends, Tony, il fait beaucoup de choses, il va où? Ben, en fait, non, je sais exactement ce que je fais et je sais exactement où je veux aller, tu vois, avec mon groupe. Et on se concentre sur ces trois passions. Et après, en tant qu'ambassadeur, dont BRICS, ben, pareil, pour moi, ça, c'est, il faut que je me reconnaisse en fait dans la société que je vais aider, et parce que moi je peux pas faire semblant en fait. C'est-à-dire que à l'époque, avant d'aller avec Monsieur Rébier dans le vin et le champagne, j'avais eu une offre, un contrat de 10 ans, mais un truc no-brainer, tu vois, avec Hennessy. Mais je bois pas de cognac. Et pourtant
Pourtant,
le deal était huge, le deal.
Hennessy, c'est LVMH.
Ouais,
Hein?
LVMH. Ouais.
Ouais.
Et en plus, je travaillais déjà avec LVMH parce que je suis avec Christian Dior et LVMH, je suis le, je suis le, je suis le, comment on dit ça, le, ouais, l'ambassadeur de l'Institut des métiers d'excellence. Donc, on travaille main dans la main, je suis le parrain, main dans la main pour que tous nos jeunes, ils puissent trouver des métiers. Parce que nous, là, tu sais, on a un slogan à l'académie, c'est You come to the academy, you get a job. Tu
OK.
sors de l'académie, tu auras un job. Donc, moi, je m'associe avec des sociétés pour être sûr que ce soit diversifié et qu'on puisse proposer pas mal de choses. Parce que je sais très bien que tous les jeunes qui sont à mon
Et ils
académie,
finissent pas tous à l'ennemi.
95% d'entre eux,
Ouais, c'est ça, ouais.
98% d'entre eux, ils seront pas basketteurs professionnels.
Ouais.
Donc moi, mon
Comment
travail,
tu les
c'est de
accompagnes
susciter
pour.
chez eux une autre passion et donc les exposer très très tôt à, bah, tu vois, LVMH, quand je parle avec eux, c'est génial, hein, ils donnent des bourses et tout ça. Mais moi, j'aimerais qu'ils passent, par exemple, une semaine au marketing, une semaine dans les magasins, une semaine dans les finances, et on sait jamais ce que le jeune va adorer et qui pourra essayer de trouver une passion, quoi.
Il nous reste un quart d'heure si on veut tenir le délai d'une heure. Et j'ai encore trois sujets donc, que j'aimerais aborder. Tu viens d'en parler là, donc tu as investi aussi dans des vignobles. Donc, ça serait pas mal que tu nous en parles. Je sais également que tu as une passion pour les chevaux. Donc, tu as un ou plusieurs chevaux de course, je ne sais pas combien tu en as. Et ce qui fait que tu as aussi investi dans un haras en Normandie.
C'est ça.
Est-ce que tu peux nous parler de
Bien
ces deux
sûr.
sujets?
Moi, je vais commencer avec les vignobles. Moi, j'ai toujours adoré le vin. J'ai toujours adoré le vin. Toute ma carrière aux Spurs, une fois par mois, j'invitais un grand château, Bordeaux, Bourgogne, ou une maison de champagne. Ils venaient manger chez moi. Je les invitais chez moi. Je faisais un dîner. Donc, par exemple, Angélus, Pétrus, Margaux,
Ah
je les
ouais.
invitais chez moi.
Ça, c'était pas des domaines de merde en plus.
Ah non, c'est que des grands
Ouais.
châteaux. Je les invitais chez moi, je disais à Popovic ou à Boris Diaw, tu sais, de
Ouais.
venir au dîner. On faisait un grand dîner et c'était trop bien. Ils nous expliquaient, tu sais, tous les trucs du château qui
En
était.
fait, ça, c'est ta force dans tous tes business. C'est ta capacité à prendre des boîtes de France et les amener aux États-Unis.
Ah, bien sûr, bien
Ouais.
sûr. Bah, j'ai toujours fait ça, développer aux États-Unis, développer en Chine. Parce que, bah, tu sais,
C'est vrai que tu as une
c'est que la
super
Chine, sur les
notoriété aussi en
statistiques,
Chine.
en Chine, les statistiques, les trois Français les plus connus, la dernière fois, ils avaient fait ça, je sais plus, il y a 3-4 ans. C'était le président de la République, Sophie Marceau et moi.
C'est
Imagine,
vrai, ouais.
les trois Français les plus connus, c'était trop marrant. Il y a, ouais, 4-5 ans, ils avaient fait une étude, parce que pendant longtemps, mon équipementier
Ouais, c'est
était
ça.
chinois. Donc, tous les ans, j'allais en Chine. Et donc, j'invitais les châteaux, on faisait le dîner, le lendemain, je l'invitais au match des Spurs. Ils faisaient le match des Spurs et les châteaux, ils étaient refaits. Et donc, quand moi, après, j'allais à Bordeaux, bah, j'étais trop bien reçu, j'avais toutes mes allocs et tout ça. Et tu sais, tu crées ton réseau, comme
Ouais.
Magic, il m'a appris, tu vois, je
Ouais.
créais mon réseau. Et à force, je me suis dit, tu sais quoi, j'aimerais bien faire mon propre truc aussi et de participer tu sais, au conseil d'administration, les COMEX et comment on fait le vin et vraiment décider, tu sais quoi, on a tout goûté, on va faire ces assemblages et ça va être le vin de 2022, tu vois. Je me suis dit, j'avais vraiment envie d'intégrer une structure au moins pour faire ça. Donc, comme d'habitude, comme tu le sais, Cédric, bah, il faut que je m'associe parce qu'à un moment donné, le vin, c'est quand même, il faut
Ouais,
des
c'est chaud.
connaissances et tout, c'est chaud. Et moi, je suis une éponge, donc moi, j'apprends vite, mais il faut quand même, t'sais, être avec quelqu'un. Et là, j'ai eu la chance d'avoir Monsieur Rébier, où il aimait le sport. À l'époque, il avait l'ASVEL pendant un an. Il a eu l'ASVEL pendant un an, ça qui est trop marrant, en 2002. Il a gagné le titre, il a revendu le club. Il s'est dit, c'est bon.
C'est bon, j'ai fait
Trop
mieux.
marrant. Et donc, en fait, à force, avec des amis en commun, j'ai rencontré Monsieur Rébier, puis on a commencé à discuter, et voilà, il m'a donné l'opportunité d'investir dans le Champagne Jeeper, donc à Reims. Et
Quelle est la grosse boîte qu'il a revendue avant de réinvestir dans des vignobles?
Aost.
Ah oui, c'est ça, c'est les jambons à Aost. Ouais.
C'est comme ça qu'il a fait sa
C'est
fortune.
ça. Et après, il a décidé d'investir dans le vin et il l'a fait avec
Exactement.
toi.
Et il a acheté Causse d'Estournel
Ok.
en 2000. Il a acheté Causse, qui est un des plus grands vins au monde, un des plus grands Bordeaux au monde. Et après, petit à petit, bah, il a construit son empire dans le monde du vin. Et il y a un an et demi, bah, j'ai intégré la structure et j'ai investi dans Jeeper et dans la Mascarone, qui est une propriété en Provence. Donc là, le rosé. Donc là, le rosé a le vent en poupe en ce moment parce
Ouais.
que tout le monde veut acheter des propriétés là-bas. T'as LVMH qui a racheté beaucoup de choses, Pernod Ricard, enfin tous les gros groupes, ils achètent des trucs dans le rosé.
Ouais, quelques célébrités aussi
Exactement. Bah, c'est
américaines.
Brad Pitt qui a commencé,
Brad
tu vois, en
Pitt, ouais.
2006 avec Miraval et la famille Perrin. Donc non, non, c'est vraiment en train de monter de malade. Et donc moi qui aime bien être sociable, j'aime bien, tu sais, partager, j'aime bien. Tu sais, je viens d'un sport co, on aime bien, voilà, être en groupe. Bah, pour moi, c'est un monde, c'est trop bien, quoi. Tu fais des dîners, tu reçois les gens, enfin, et ça se marie bien avec mes autres business. Parce que je vais faire, je sais pas, je vais faire un match de basket, je vais recevoir mes partenaires et je leur fais découvrir mon vin et mon champagne. Enfin, tu sais, tout est lié, en fait.
Ce que je constate, c'est qu'il y a quand même un goût du challenge chez toi et du risque parce que tu vois, LVMH, quand ils ont commencé à investir dans le vin, ils se sont uniquement focalisés sur des marques très très connues,
Très très connu. Hein.
tu vois, Cheval Blanc et bam, on pose. Tu investis quand même dans une station de ski, donc c'est de l'immobilier, mais qui n'est pas du tout connu de base. Et l'idée, c'est qu'elles prennent de la valeur. Tu as investi quand même dans des marques là de rosé, tu n'as pas pris les plus connues, justement pour les faire monter
Après, on a fait nos
en
devoirs,
gamme.
Cédric. Je vais te dire un truc, on a fait nos
Ouais.
devoirs. Parce que la Mascarone,
Ouais.
Miraval, tout le monde connaît Miraval, c'est un des meilleurs rosés au monde. Le propriétaire, Tom Bove, un Américain, qui a vendu à Brad Pitt, c'était le propriétaire de la Mascarone. Donc on sait très bien que il a fait du bon travail à Miraval, il a fait la même chose à la
Ok.
Mascarone. Donc on savait très bien que c'était une belle endormie parce qu'on s'est dit, ça peut être pas mal.
Ouais.
Et que c'est qu'une question de marketing et de le monter parce que le produit est bon. Et quand le produit est bon, c'est qu'une question de marketing. Et c'est là où je rentre en jeu, Cédric.
Ouais, mais c'est top. Et c'est là où je voulais en venir, tu vois, c'est que bah pour faire des bons coups, tu es obligé de travailler plus.
Ouais.
Parce que finalement, tu n'achètes pas déjà une marque ultra connue.
Non.
Et c'est à toi de faire tes devoirs. Et je pense que, tu vois, on en revient toujours à ça dans l'immobilier. La règle pour faire des bons coups, c'est de bien acheter.
Et bien acheté, ouais, sûr.
Si tu achètes bien, tu sortiras bien. Et donc, pour bien acheter, bah, il faut essayer d'être en dehors des tendances et de faire ses
Think
devoirs.
outside the
Ouais.
box.
Et là, on parle, tu vois, l'idée aussi de ce podcast, c'est les gens qui vont nous regarder n'ont pas forcément des moyens importants. Donc, c'est comment eux peuvent essayer de prendre tout ça pour en sortir quelque chose et essayer de le transformer en opportunité. Je pense que des opportunités, peu importe les moyens que tu as, il y en a toujours. Mais c'est comment tu think outside the box, comme tu dis, comment tu vas réfléchir un peu différemment pour essayer de détecter la pépite qui te permettra bah, une plus-value plus rapide. Mais effectivement, ça ne va pas tomber du ciel. Donc, il faut vraiment faire ses devoirs et avoir des convictions. C'est-à-dire que c'est jamais gagné, c'est des paris. Mais quand tu achètes de manière plus modeste, moi je sais que à Montpellier, quand j'ai commencé dans l'immobilier, j'ai fait un pari qui était un pari pas forcément délirant, tu vois, en termes de pari, mais dans la majorité des villes en France, les gares sont un peu excentrées des centres-villes, ce qui fait que les quartiers des gares sont toujours dégueulasses. C'était le cas à Toulouse, et Toulouse, t'as la gare qui est un peu excentrée. À Montpellier, la gare, elle est plein centre-ville. Et pourtant, le quartier était décoté et était mal famé. Et moi, je me suis dit, mais en fait, avec la gentrification et le fait que Montpellier va grossir, c'est sûr que le quartier de la gare va monter. Et on était autour. Moi, j'arrivais à acheter à 1500 euros du mètre carré il y a moins de 10 ans.
Ah ouais.
Maintenant, tu es plutôt à 4000.
Ouais, là maintenant Toulouse.
Et donc, j'ai pris le risque d'acheter 5 appartements derrière la gare à 1500 euros du mètre carré. Et mes potes, ils m'ont dit, mais Cédric, t'es con parce que tu diversifies pas, t'es en train de prendre des risques dans le même quartier, au même endroit, etc. Je leur disais, oui, mais il n'y a pas beaucoup de quartiers encore en centre-ville de Montpellier où t'investis à 1005. Et moi, je suis sûr que ça peut que prendre de la
Que
valeur, ce
prendre de la
quartier.
valeur.
Donc c'est, faut avoir des
Des
convictions et c'est ce
convictions.
genre de pari que tu vas prendre, think outside the box,
Ah bah là c'était think outside the
pour...
box. C'est bien. Comment tu fais je sais pas moi, choisir entre ce bâtiment-là ou ce bâtiment-là ou les différents pays, parce que maintenant BRICS, vous allez dans d'autres pays. Tu regardes quoi justement si tu devais conseiller, tu vois, quelqu'un qui démarre dans l'immobilier? Donc t'as bien acheté, ça on est d'accord, mais après tu donnerais, si tu pouvais donner un ou deux conseils, qu'est-ce que tu dirais?
Déterminer, déjà définir sa stratégie en amont. L'immobilier, c'est toujours un rapport ben, rendement-risque et un rapport rendement-rentabilité. La différence entre le rendement et la rentabilité, le rendement, c'est l'argent, le cash que tu vas avoir tout de suite via des loyers que tu vas percevoir. La rentabilité, c'est la potentielle plus-value de ton immobilier dans le temps. Par exemple, moi, je savais que en investissant à Montpellier derrière la gare, j'allais pas gagner de l'argent sur les loyers que j'allais toucher tout de suite. Parce qu'on restait à Montpellier et que même à 1500 euros du prix au mètre carré, ça allait juste me rembourser mes échéances d'emprunt. Mais mon gain, il était vraiment sur la capacité de l'immobilier à faire x2, x3 assez rapidement dans le temps. Et si par contre, tu vas préférer des loyers et une tranquillité, bah, il vaut mieux que soit tu sortes d'une grande ville et t'ailles dans une ville de taille intermédiaire qui va faire 15-20 000 habitants. Parce que les prix, c'est toujours de l'offre et de la demande. Donc, tu auras moins de demandes, donc l'offre, ça va tirer les prix vers le bas. Et sinon, si tu veux pas faire du résidentiel, il vaut mieux que tu t'orientes vers de l'immobilier commercial ou d'entreprise comme toi t'as fait avec des FedEx, parce que là, c'est génial. Tu arrives à négocier des baux assez longs sur du 10 ans des fois. et tu n'as pas besoin forcément. Les FedEx, la complexité, c'est que tout de suite, il va te falloir un budget de 1 million, 2 millions d'euros. Tu peux très facilement faire de l'immobilier commercial en te disant, avec 200, 300 000 euros, je vais racheter juste les murs de la boulangerie du village. Si je fais une analyse, je vois bien que la boulangerie, elle est bien placée au sein du village, que par rapport à la taille de la ville ou du village, il y aura toujours besoin d'une boulangerie ici, donc je ne prends pas trop de risques en finançant les murs de cette boulangerie. Et une boulangerie, si tu as analysé un peu ses comptes, tu sais qu'elle tourne bien et qu'elle n'aura pas de problème pour te payer un loyer.
Tu sais que, rien à voir, hein, mais avec Smart Guttings, on a fait un gros deal avec La Poste et le postier, c'est le deuxième personnage préféré des Français.
Ouais.
Tu sais qui est numéro un?
Le boulanger.
Exactement. Donc tu prends pas l'arrêt, c'est bon.
Non.
C'est le personnage préféré des Français, le boulanger. C'est marrant. Hein?
Ouais, c'est marrant.
Ouais, c'est les études qui sont sorties là, il y a 2 mois.
Bah, d'un côté, je ne suis pas étonné. Tu vois, c'est comme le pharmacien et le professionnel de santé préféré des Français. Parce que c'est la personne chez... En tout cas pour les personnes âgées, parce que ça doit être surtout les personnes âgées qui répondent à ce genre de questionnaire. tu vois, ils vont à la boulangerie tous les jours, ils vont à la pharmacie régulièrement. Donc ça ne m'étonne pas.
Mais c'est pour ça que quand tu as dit boulangerie, j'ai dit ouais, on ne prend pas de risque. Surtout en France, on aime notre pain, de toute façon.
Ouais, c'est ça. Raconte-moi, comment tu es arrivé à acheter des chevaux?
Alors les chevaux, pareil, j'ai toujours aimé quand j'étais jeune. Et à 19 ans, j'arrive au Texas. Et là, il y a des ranchs partout. C'est Texas, c'est les chevaux, c'est les cowboys, c'est tout. Et donc, parce que tu sais, les Spurs, c'est un éperon, hein. Spurs, en français. C'est un éperon.
Ok.
Spurs. C'est ça que ça veut dire. San Antonio Spurs, c'est les éperons.
C'est les éperons, ouais.
Et donc, j'ai eu l'occasion d'aller dans plein de ranchs et être avec les chevaux. Et je sais pas, je trouve ça tellement apaisant. Tu sais, ma vie, elle va tellement vite, j'ai tellement de choses qui arrivent, j'ai tout le temps stimulé, tout le temps plein de choses, un peu hyperactif quand même, hein. que quand je suis dans ce monde-là, bah, ça m'apaise, en fait. Ça m'apaise, tu sais, je réfléchis et à ce que je veux faire, tout ça, et comme une sorte de méditation, quoi. Et donc, quand mes enfants, ils étaient petits, je les mettais au chaud. Ils ont monté tout ça et je trouvais ça sympa en fait. Et quand je suis rentré en France, je me suis dit, tu sais quoi, j'avais toujours voulu, tu sais, d'investir dans les chevaux, mais je me suis dit pas pendant ma carrière, parce que tu sais, si tu veux le faire, ça prend du temps et il faut bien le faire et il faut être bien entouré. Et donc quand j'ai pris ma retraite sportive, j'ai dit let's go, c'est parti. J'ai monté mon projet, tu vois, j'ai travaillé sur un projet de ce que je voulais faire et ce que je voulais amener au monde des chevaux. Et essayer d'avoir une plus-value par rapport à ce qui se fait déjà, parce que ce monde-là, il est un peu plus vieillissant, on va dire, et moi je voulais, tu sais, le rajeunir, ramener plus de jeunes, utiliser les réseaux sociaux et le faire un peu différemment, leur montrer que tu peux, comme Bricks, investir dans les chevaux, parce que les chevaux, ils ont une image que c'est que pour les milliardaires. Et en fait, tu peux acheter des bouts de chevaux. Donc, je rigole souvent avec mes amis. Tu peux acheter une patte, un truc, tu sais, tu peux acheter 5% d'un bout d'un cheval. Et t'es pas obligé, comme Bricks, tu peux, à partir de 10 euros, investir dans l'immobilier et t'es pas obligé de, tu sais, d'avoir 300 000 euros ou 1 million d'euros pour investir. À partir de 10 euros, tu peux y aller. Et ben, dans les chevaux, c'est ça que j'essaye d'éduquer, la nouvelle génération. Tu prends 5%, puis tu vois ce qui se passe, tu vois. Et donc, j'ai commencé avec mes chevaux de course, on a commencé à avoir du succès, et donc ça a commencé à grossir. Et donc, je me suis dit, OK, c'est bien les chevaux de course, mais je vais faire l'élevage aussi, parce que ça, c'est ça la base, l'élevage. Et donc, j'ai décidé d'acheter un haras. Il y avait une belle opportunité à Deauville. À Deauville, c'est la Mecque, c'est là où il y a tous les meilleurs chevaux.
Okay.
Et donc, il y a une propriété, malheureusement, c'est un Belge. Il meurt à cause du Covid et les petits enfants, ils voulaient pas le garder, tu vois, parce qu'ils étaient pas dans les chevaux. Et donc moi, je fais mes devoirs, je vois que les voisins, c'est le propriétaire du Qatar, donc le propriétaire du PSG,
oui.
Et après de l'autre côté, t'as Dubaï, et je me dis bon, ça va être des terres quand même, ça va valoir, ouais, ça sent bon. Et donc ils mettent le bien en vente et au bout d'une semaine, il y avait déjà 5 offres, dont Antoine Griezmann et son papa, c'est ils avaient fait une offre aussi,
ouais.
Sur le même domaine. Et moi, j'ai joué la carte belge. Je l'ai jamais utilisée de ma vie, Cédric, la carte belge. J'ai dit, bon, j'ai fait ma présentation à la famille. Je suis né en Belgique. Donc, normalement, hein, vous devez vendre à un Belge, normalement. C'est comme ça, faire ma blague. parce qu'ils avaient le choix, on était tous au même prix. Donc, okay. Donc là, ça revient sur draguer les gens et qu'ils voient que mon projet, je vais rendre hommage à votre grand-père et on va faire ça bien, quoi. Et donc, ils ont décidé de vendre à moi. Donc, c'était cool.
T'es appelé Antoine après?
Ouais, je l'ai chambré après. <C'est vrai. rire> Je l'ai chambré en plus, c'est vrai.
Tu te retrouves avec combien de chevaux là-bas?
Alors là, maintenant, j'en ai une quinzaine à moi. Et après, j'ai une trentaine où c'est des clients qui confient leurs poulinières, leurs chevaux chez nous. On peut monter jusqu'à 75. Là, il y a les voisins qui sont en vente, tu vois, les voisins, là. Donc là, comme moi, je suis à fond dans l'immobilier, je me dis ça va être important. Donc, en train de faire des offres sur mes voisins. J'ai voisins à gauche, voisins à droite qui vendent. Donc, donc on continue à grossir.
Et c'est passion ou t'as une vraie rentabilité sur un truc comme ça?
Non, nous, sur ça, c'est break-even.
C'est break-even.
Nous, on break-even. Donc, la propriété, on l'a très, très bien achetée. Okay. Donc ça, on va monter la valeur et tout ça sera plus pour le patrimoine.
Tu vois, pour...
Ouais, moi je suis à l'équilibre. Parce qu'en plus, j'ai pas mal de sponsors dans le monde des chevaux qui suivent mon écurie et tout ça. Et on a fait un show télé à Equidia, on a fait une saison 1, on a fait une saison 2. Et donc en fait, tout cet argent, je l'ai remis dans les chevaux en fait. Je l'ai remis dans les chevaux. Et donc sur la première année, c'est la première année, on a même gagné de l'argent. Et la deuxième année, on va être à l'équilibre.
Ok.
Et moi, mon but, c'est tout ce que, tout ce que je fais dans les chevaux, je le réinvestis. Et ma stratégie, c'est toujours prendre 10%, 25%, 20%, et je m'associe sur tous mes chevaux. J'ai pas un cheval que je suis propriétaire à 100%.
Mais je me rends
Tu comprends?
Ouais, je vois bien.
C'est une stratégie pour diversifier mon risque, exactement. De mentalité immobilier, tu vois.
Ouais,
et donc après, le hara, je rachète les terres, tout ça. Et ça, moi, ça pour moi, je pense plus en mode patrimoine.
Ouais.
C'est-à-dire qu'on l'a acheté à temps. Et là, ça a déjà pris de la valeur parce que nos chevaux, comme ils ont gagné des grosses courses, et les terres, tu sais, ça prend de la valeur. Et ça sera plus pour mes enfants. Ça sera plus pour mes enfants parce que plus t'élèves, des gros chevaux, plus ça prend de la valeur.
Il n'y a pas de logique, là. Mais bon.
Ouais, c'est logique des chevaux.
Logique des chevaux. Ça peut valoir jusqu'à combien un cheval parce que je ne me rends pas compte.
Ah, ça, 1 million, 2 millions. Nous, on a eu une offre pour Mangoustine à 2 millions d'euros.
Ah oui.
Et moi, j'ai investi 50 000 euros. Bon, on ne l'a pas vendu. Parce que elle a fait sa carrière. Donc là, elle a fait sa carrière de course.
Okay.
Donc une carrière de course, ça dure 3 ans, 4 ans. Là, elle est à la retraite maintenant. Et elle va commencer sa carrière d'élevage. Donc maintenant, elle va faire des bébés. Mais tous ces bébés vont valoir beaucoup d'argent. Donc, il ne faut pas prendre les 2 millions. Tu vas prendre 500 000, 600 000 chaque bébé et au bout de 4 ans, tu auras eu les 2 millions, mais elle peut faire des bébés pendant 20 ans.
Il faut être bien assuré, là, s'il arrive un truc à Mangoustine.
Eh ben, elle est assurée, Mangoustine. Parce que Mangoustine, grâce à Mangoustine, j'ai gagné comme un titre NBA, en fait. On a gagné une des plus grosses courses au monde qui s'appelle la poule des essais des pouliches. C'est une des plus grosses courses au monde et c'est comme si j'avais gagné un titre NBA. Et au bout de 1 an et demi, donc les gens ils y croyaient pas quoi, ils disaient waouh, ouais, Tony il a déjà gagné un titre NBA entre guillemets, et même moi j'y croyais pas, j'ai fait waouh, ouais, je pensais jamais qu'on allait gagner un truc de fou, une course incroyable, t'es à Longchamp, c'est magnifique Longchamp, l'hippodrome il est magnifique, vu sur la tour Eiffel tout, et il y a que 16 grosses loges VIP, okay. Donc moi j'en ai pris une, j'ai une loge maintenant à l'année, j'ai un contrat de 3 ans et comme ça, je fais, c'est une loge Infinity Nine Group. Donc, il y a toutes mes entités qui peuvent venir et on fait nos meetings là-bas, on fait plein de trucs là-bas et on utilise l'endroit, quoi.
Cool.
Et on marie avec tous mes autres trucs.
C'est vrai que c'est sympa dans le sens où ça permet de démocratiser cet accès aux chevaux qui, pour la majorité des gens, on a l'impression que c'est...
Parce que les gens, ils sont trop gentils, ils sont passionnés, c'est vraiment les valeurs humaines, elles sont trop bien. Et donc, c'est pour ça que je trouve ça dommage qui s'ouvre pas plus, quoi.
Direct, c'est clair.
Et donc, c'est un peu le rôle que j'ai pris par rapport à, avec le PMU. Tu sais, moi, je suis allé voir chaque institution. Hein. Je suis allé voir Equidia, je suis allé voir PMU, je leur ai fait ma présentation de mon projet et tout. Et je voulais vraiment essayer de faire un truc différent, quoi.
Tiens, on va finir par... Est-ce que tu aurais un conseil à donner? Alors là, on va essayer de s'adresser à des personnes qui veulent débuter dans l'immobilier.
Mmh.
Et est-ce que tu as un échec, tu vois, que tu as connu en immobilier duquel tu as appris des choses
J'ai eu des échecs, bien sûr. Hein. J'ai acheté un FedEx dans un endroit où Il n'y a pas eu vraiment beaucoup d'évolution. Et donc, quand je l'ai vendu, j'ai perdu un peu d'argent.
OK.
Il y en a un, FedEx savait pas s'il voulait renew, tu vois, le beau. Donc, c'est rentré dans les grosses négociations. Donc, des fois, tu peux avoir des trucs où tu as une vision, tu vois, de ce que tu veux faire. Mais par exemple, à New York, on avait acheté un bâtiment. Et tu sais, ils ont des loyers qui est sur des lois qui étaient il y a 40 ans, 50 ans. Et donc, du coup, tu veux essayer de les sortir, tu vois.
Ouais, pour, tu peux plus rien
et
accéder.
Tu peux pas les sortir et ça. Et donc, du coup, bah, t'as pas acheté au bon prix parce que nous, on pensait qu'on allait les sortir, faire fois 4, fois 5 avec le loyer et après, tu fais ta plus-value.
Il y a déjà des...
On a été stock sur un ou deux buildings comme ça. Non, ça peut arriver, tu sais, là, bah, t'es bien placé pour savoir, hein, l'immobilier, c'est pas une science exacte, hein. Des fois, tu as une vision de ce que tu penses qui va se passer, et t'as pas les droits, ou t'as pas le permis, ou t'as pas les trucs. Et bien sûr que ça m'est déjà arrivé, bien sûr.
Et tu vois, on se dit, bah, Tony, il est facile, les banquiers, ils le suivent en fermant les yeux. J'imagine que tu galères comme tout le monde.
Comme tout le monde, bien sûr.
Il y a plein de projets que tu
dois
parler.
C'est toujours la guerre pour négocier, les taux, les filles et tout, bien sûr. Mais bien sûr.
Il y a des projets sur lesquels les banquiers, ils t'ont dit, non, non, d'accord, on t'accompagne pas.
Bien sûr, bah, certains FedEx, certains buildings qu'on voulait faire à New York, non, c'est toujours la guerre, ouais. Bien sûr. Parce que nous, on essaie toujours de mettre le moins de fonds propres possible.
C'est ça.
Le plus de fonds propres. En fait, j'ai l'impression que les banques, c'est même plus des partenaires, en fait, maintenant.
Non.
Avant, les banques, c'était des vrais partenaires, ils t'accompagnaient et tout ça. Maintenant, les banques, ouais, c'est dur maintenant, hein, d'avoir des emprunts et tout ça. Et même si t'es Tony Parker, ça change rien, c'est business, quoi.
Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil alors pour un jeune qui veut se
lancer?
Ouais,
pour un jeune qui veut se lancer.
Un jeune de ton académie, par exemple.
Un jeune de mon académie? Bah, je lui dirais déjà de essayer de bien connaître le sujet quand même, de s'associer s'il peut, pour apprendre avant de voler de ses propres ailes. Ne pas avoir peur, et moi je dis tout le temps, ne pas avoir peur de s'entourer de gens qui sont plus intelligents que toi, et comme ça, ça te fait grandir aussi. Ça serait mon premier conseil.
Regardez le podcast Brickstock. Beaucoup d'apprentissages sont à venir.
Exactement, ça c'est exactement. Et ouais, enfin, et comme tu l'as dit, j'aime bien ce que tu as dit tout à l'heure, établir ta stratégie, genre qu'est-ce que tu veux faire, pourquoi ouais. T'achètes ça, est-ce que tu veux faire bah comme moi j'ai fait FedEx Gary Control, ou tu préfères faire un fonds et t'as pas envie d'être tu sais involved, tu vois, tu t'en fous, ou est-ce que tu veux construire un empire et tu y vas petit à petit, quel marché, est-ce que tu veux que des gros marchés comme New York, Paris, ou est-ce que tu préfères aller à Toulouse, Montpellier, et prendre des petits risques comme toi, t'as fait, parce que tu sais que la ville, elle va grandir, parce que la vie politique là-bas, c'est des gens, ils sont actifs, là, les politiques, donc tu sais que tu pourras avoir des permis, des trucs comme ça. Je pense qu'il faut étudier tout ça.
Non, moi, ce que je retiens de ce que tu m'as dit, c'est faire ses devoirs, effectivement. Mmh. Donc vraiment, comprendre, en fait, quels vont être tes gains par rapport à ta stratégie, mais en fait, quels sont les risques et quelles sont les emmerdes potentielles que tu vas prendre
pour
faire un premier investissement. Parce que juste de le savoir au préalable, ça fait que le jour où ça t'arrive, bah, tu n'as pas une charge mentale excessive à te dire « Waouh, il me tombe une galère de fou sur la tête. » Et je pense que dans l'immobilier, tu n'es jamais préparé à 100%. Tu vois, c'est ce que tu dis, des fois tu peux être stuck, tu peux être bloqué sur des projets. Tu n'es jamais préparé à 100%. Et ce que je vois, c'est que
toi,
tu ne poses pas de questions. En fait. C'est ta fait. Ouais. T'as fait, et c'est aussi les galères qui te permettent d'apprendre sur le chemin. Et donc, je pense que ce que tu montres aussi par ton exemple, c'est que t'as investi très tôt dans l'immobilier. Tu vois, t'avais 25 ans.
Ouais, très très tôt. Ouais.
Et il faut pas trop tarder, parce que je pense que on peut plus facilement appréhender des galères à 25 ans qu'à 40. Et donc, quand tu commences à faire ton premier investissement à 40 ans et que tu as des galères, bah, ça t'encourage pas à réinvestir. Alors qu'une galère à 25 ans parce que tu as un locataire qui paye plus, bon, bah, c'est une mauvaise expérience, mais ça te permet de te dire, OK, comment je gère mieux la prochaine fois? Donc, c'est comment aussi j'utilise ces galères-là pour rebondir sur mes prochains deals.
Ouais, c'est clair. Non, mais il faut être préparé à qu'il y ait des choses qui vont arriver.
Ouais.
Tu vois, moi, je me rappelle d'un projet là, quoi. qu'on voulait faire là à Courançon et donc on avait notre
donc
plan
la ville à côté de la ville
ouais, à côté de Villard, ouais. Et on a nos plans, tout ça, on a nos trucs, et là il y a l'étude sur l'environnement, tu vois, et puis on se dit bah, de toute façon il n'y a rien là-dedans, pourquoi, tu sais, on s'inquiète pas, et là ils ont trouvé une mini fleur De 5 mm, je te dis, c'est tellement petit, c'est vrai que tu peux même pas le voir à l'œil nu. Et ben, vous pouvez pas construire. Et on a perdu 3000 mètres carrés comme ça. Parce qu'on peut
La
pas, on peut pas,
préservation de l'environnement.
ah, exactement. Et nous, on avait nos plans, on avait nos trucs et financement. À cause de cette étude. Et donc, on a dû, tu sais, réarranger les choses, mais tu perds 3000 mètres carrés quand même.
T'y es pas allé la nuit pour retourner le terrain? Ah non, de quoi vous parlez?
Le truc, c'est, tu vois même pas, j'ai fait, mais non, j'ai fait. Donc, c'est pour ça, tout ça pour dire qu'il y aura toujours des imprévus et dans l'immobilier, voilà, il faut être prêt. Et pour se dire sur, fais bien tes devoirs parce que comme ça, tu sais dans quoi tu t'engages. Et donc, si ça va pas, bah voilà, t'as pas, t'sais, une prise de tête et tu savais les risques, ça n'a pas marché, passe au prochain et tu feras mieux la prochaine fois, quoi.
Ouais, après c'est aussi, on n'en a pas parlé, tu vois, mais jusqu'à quel point tu te mets en zone de risque, tu vois,
Ouais. Bah ça, je trouve que c'est très personnel.
ça
Moi, je
c'est.
trouve que c'est très personnel. C'est comme ta résidence principale, c'est très personnel, moi, ce que j'ai fait. Et je pense que la zone de risque, je trouve que c'est personnel aussi. Il y en a, ils aiment zéro risque. Il y en a, ils aiment bien un peu de risque. Il y en a, ils sont en mode poker. Ils ont pas paire d'as, mais ils y vont quand même, tu vois. Tout le monde est différent, moi, je trouve, sur ça. Je trouve pas qu'il y ait vraiment une, enfin, si, il y a quand même des certaines règles que tu dois respecter dans l'immobilier, mais après, le risque, je trouve que c'est personnel.
Ouais, c'est assez personnel, mais faut être, faut juste, c'est sûr que tu es plus tranquillisé si tu sais que bah, si ton projet se passe mal, tu as encore suffisamment d'argent pour te nourrir et pour nourrir ta famille à la fin du mois. Donc
Bah, non, mais ça, c'est sûr. Puis,
c'est
comment
juste
tu peux
là-dessus.
juger ton risque aussi? C'est selon si tu investis dans un truc que toi, tu contrôles et que tu peux vendre si tu as besoin de cash vite, ou si tu es dans un fonds où,
Ouais,
là, si tu veux
c'est ce dont tu
vendre, c'est que
parlais.
si le président, il décide ou que quelqu'un te rachète tes parts, l'argent que tu vas mettre selon les deux projets, bah, il faut être sûr que tu fasses bien tes calculs pour être sûr que tu as de l'argent à la fin de la
Ouais.
journée pour, bah, payer toutes tes factures et manger, tout simplement.
Tu fais bien d'en parler parce que ça fait partie de la stratégie. C'est toujours l'horizon d'investissement. Est-ce que j'investis avec la volonté de récupérer mon cash dans 2 ans ou est-ce que je peux immobiliser mon cash pendant les 10 prochaines années?
C'est ça, exactement. Exactement. Et ça, pareil, c'est que toi qui peux décider de comment tu fais ta stratégie et ce que tu as besoin et les fonds que tu as besoin pour être sûr que toutes tes factures soient payées, que ta maison soit payée. Il n'y a que toi qui peux décider de ta stratégie et après, c'est toi qui joues jusqu'où tu veux prendre le risque, en fait.
Cool. Écoute, Tony, on va juste finir sur un peu de promo.
Ok. Brix, à partir de 10
C'est
euros.
ça. Là, il y a déjà la pub. Qu'est-ce qui fait qu'il y a 6 mois, tu vois, on se voit sur Lyon, tu n'as quasiment pas investi dans les startups. Pas que je sache, tu vois. Alors qu'on a dû te proposer des dizaines de deals startups. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, Brix t'a chauffé? Est-ce que c'est la rencontre? Est-ce que c'est l'immobilier? Est-ce que c'est le fait que ça parlait à ta fanbase? Donc, tu vois, les personnes qui te suivent sont des
Bah, t'as
personnes
déjà dit
assez
les trois trucs.
modestes.
Ouais. Pour
OK.
moi, c'est l'aventure humaine, la rencontre avec toi,
Ouais.
l'immobilier, toujours aimé, et ton concept du fait que, comme moi, en plus, en ce moment, je suis animé par ça et donner des opportunités aux jeunes, de pouvoir dire qu'avec Brix, mes amis qui ont pas beaucoup d'argent, ou par exemple, moi, quand on était jeune avec mes parents, qu'ils auraient pu investir dans l'immobilier, je rigole, mais à partir de 10 euros et que tu peux avoir une opportunité d'être dans des bons deals. Parce que moi, j'ai toujours l'impression que, tu sais, les gens riches, ils sont toujours dans tous les bons deals. Et le reste, bah, tu vois. Et j'ai l'impression que avec Brix, bah, tu seras dans des bons deals selon tes moyens, tu vois. C'est-à-dire que tu peux avoir beaucoup de moyens, pas beaucoup de moyens, tu seras dans des bons deals. Et moi, c'est vraiment ça qui m'a plu. Parce que je me suis dit que bah, une famille qui était comme moi quand on était jeune, et bah, ils auront l'occasion de pouvoir investir dans des très très bons deals.
Tu vois, moi, c'est vraiment la raison pour laquelle j'ai monté Brix. Me dire que ben, en fait il faut utiliser les codes de la finance pour jouer avec les mêmes armes que ceux qui ont accès aux meilleurs deals et l'union fait la force ensemble on sera capable d'accéder aux mêmes opportunités
Exactement.
et le deuxième effet positif que je vois là après 18 mois d'activité c'est de voir aussi que on apporte une certaine pédagogie parce que le simple fait d'offrir cette opportunité d'investissement sur des petits montants ben, tu vois on a des personnes qui vont mettre 500 € sur notre plateforme. Elles ne vont pas forcément devenir millionnaires dans 20 ans, mais tu les intéresses à cette épargne financière. Et donc, tu les pousses à se poser des questions et à se dire, OK, en fait, je peux le faire et je vais peut-être me mettre un coup de pied au cul et aller acheter moi-même derrière un appartement. Et cette pédagogie et cette éducation financière, c'est bien parce que, tu vois, on est dans une société où tu n'apprends pas ça à l'école. Si tes parents t'ont jamais donné quelques billes, tu sais pas par quel bout le prendre, et donc c'est super.
Je suis 100% d'accord. 100% d'accord. Bah
Bon.
merci, hein. Je trouve que c'était une bonne première, hein. On a abordé beaucoup de
Ouais,
sujets, hein. On a abordé beaucoup de
ouais,
sujets. J'espère que les gens seront
ouais.
contents.
Bon, en tout cas, moi, je suis super content parce que c'est vrai que tu en parles très peu, tu vois, de tes activités
Ouais, c'est clair,
immobilières.
j'en parle jamais.
Je t'ai pas dit que s'il y a plein de personnes qui te contactent pour te proposer des deals, Brix prend un pourcentage.
Fair enough, ok, pas de problème.
Non, hésitez pas. En tout cas, si vous avez une nouvelle aventure pour Tony Parker dans lequel l'amener une aventure immobilière. En tout cas, merci pour ton temps.
Bah merci Cédric,
C'était
merci.
super intéressant. Et donc, comme je le disais en introduction, avec notre nouveau podcast Brickstock, on va interviewer des personnes qui touchent de près ou de loin à l'immobilier, que ce soit des célébrités, que ce soit des personnes qui sont aguerries à l'immobilier ou que ce soit des personnes très novices qui nous racontent les galères par lesquelles elles sont passées et les succès qu'elles ont rencontrés. Ça va être l'occasion de passer en revue tout type d'immobilier. Merci, à très vite, salut.
Ciao!
Merci Tony.
Bah ouais, avec plaisir, c'était cool, avec
Ouais.
plaisir, c'était cool. J'avais jamais parlé. Mais...